Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Un nouveau chapitre s'ouvre entre la RDC et le Rwanda. Les deux pays ont signé un accord de paix hier à Washington sous la médiation américaine. Il s'agit de mettre fin au conflit qui sévit dans l'est de la RDC. L'accord signé inclut des provisions, notamment sur le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Face à face, Judith Suminwa et les étudiants et personnels académiques de l'Université d'Osaka en séjour au Japon dans le cadre des relations RDC-Japon. La première ministre de la RDC expliquait hier les efforts de son gouvernement pour faciliter l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis, lutte contre la corruption. Un atelier s'est tenu à ce sujet vendredi à Kinshasa. Objectif, produire un document pour guider les partenaires concernés par cette lutte. Pour en parler, nous recevons Nick Elebe, représentant pays de l'organisation IDLO-RDC. Madame, Messieurs, bonjour. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix vendredi à Washington sous l'égide des États-Unis. L'objectif de cet accord est de mettre fin au conflit qui sévit dans la partie est de la RDC. La signature s'est faite entre Thérèse Kayikwamba, ministre congolaise des Affaires étrangères, et son homologue du Rwanda, Olivier Ndungirehe. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le compte-rendu de Grace Amzati.
Tout en remerciant le président américain Donald Trump pour son engagement envers ce processus de paix, Thérèse Kayikwamba souligne qu'avec cet accord, un nouveau chapitre s'ouvre. Ce chapitre qui appelle non seulement à l'engagement, mais aussi à l'espoir de le voir se matérialiser, déclare-t-elle.
En signant cet accord, nous réaffirmons une simple vérité. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité pour respecter le droit international, pour protéger le droit humain et pour protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert sont en train de regarder. Ils attendent que cet accord soit respecté.
De son côté, son homologue du Rwanda affirme que le cœur de cet accord de paix réside dans la décision d'établir un mécanisme permanent de coordination conjointe en matière de sécurité entre la RDC et le Rwanda. Olivier Nduhungirehe.
Cette décision repose sur l'engagement pris ici de mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien apporté par l'État au FDLR et aux milices associées. Avec cet accord, nous nous sommes également engagés à faciliter les retours des réfugiés sur nos territoires respectifs avec le soutien du HCR.
La prochaine étape prévoit la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington fin juillet au cours d'un sommet.
Sachez qu'après la signature, les deux ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda étaient reçus par le président Donald Trump. Cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda marque ainsi une page importante qui se tourne entre les deux pays. Lors de la cérémonie de la signature, Mossad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain, est revenu sur les grandes lignes de ce texte qui engage les deux pays à mettre fin au soutien aux groupes armés dans l'est de la RDC. On écoute Mossad Boulos dans cet extrait choisi par Martial Papi Mukeba.
L'accord signé inclut les respects de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, l'établissement des mécanismes de coordination de sécurité conjointe, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que l'accès humanitaire, la réaffirmation du mandat de la MONUSCO et l'établissement d'intégration économique régionale. L'accord inclut aussi une annexe sur le fonctionnement du mécanisme de coordination de sécurité conjointe et le concept d'opération du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR, les désengagements des forces et la levée des mesures de défense du Rwanda. Avec les signatures des parties aujourd'hui, l'accord entre immédiatement en vigueur.
The Par ailleurs, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta, s'est exprimée hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, prenant la parole à l'occasion de son briefing trimestriel sur la RDC. La chef de la MONUSCO salue des avancées diplomatiques importantes, mais elle déplore la situation sécuritaire et humanitaire qui ne cesse de se détériorer dans l'est de la RDC. Polly Mouzalia nous fait la synthèse de l'allocution de Madame Bintou Keïta.
Dans son allocution, Bintou Keïta salue la signature à Washington hier d'un projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour la chef de la MONUSCO, la signature de cet accord est une étape importante pour apaiser les tensions dans la région. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta dépeint la situation sécuritaire qui demeure volatile dans l'est de la République démocratique du Congo. En Ituri, par exemple, elle note l'émergence de nouveaux groupes armés, en plus de Codeco et Zaïre qui multiplient les exactions contre les civils. La chef de la MONUSCO rappelle que plus de 27 millions de Congolais souffrent d'insécurité alimentaire et 7 millions sont déplacés. Elle dénonce les violences dans l'est du pays qui continuent de cibler les femmes et les enfants avec des viols utilisés comme armes de guerre. Bintou Keïta déplore la réduction drastique des financements humanitaires qui limite les capacités d'intervention dans les zones affectées par les conflits. À ce jour, le plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à 11%. Elle appelle donc la communauté internationale à agir rapidement pour assister ces populations en détresse. Enfin, la chef de la MONUSCO réaffirme l'engagement de la mission onusienne à soutenir la paix en République démocratique du Congo, tout en rappelant que la transition vers le retrait de la MONUSCO dépendra des conditions sur le terrain.
Comme vous venez de l'entendre, la chef de la MONUSCO a fait savoir que la situation humanitaire dans l'est de la RDC est intenable. Elle se détériore à cause de l'insécurité, dit-elle. Madame Bintou Keïta, dans ses propos recueillis par Polly Mouzalia.
La situation humanitaire en République démocratique du Congo est intenable. À travers le pays, 27,8 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. L'insécurité, la fermeture des aéroports de Goma et Kavumu et le blocage des principales routes entravent gravement l'acheminement de l'aide. 12 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début de l'année. La crise sécuritaire dans l'est du pays a aggravé la situation humanitaire à laquelle nous ne disposons pas de moyens suffisants pour répondre. La suspension des financements du principal bailleur, qui couvrait 70% de la réponse humanitaire en 2024, oblige les acteurs humanitaires à se recentrer uniquement sur les urgences vitales. Nous sommes à la fin juin et le plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à 11%. J'appelle la communauté internationale à agir sans délai.
Pendant ce temps, en Ituri, les groupes armés Codeco, FRPI, FPIC et Chini Yatuna ont signé hier vendredi un protocole d'accord de paix pour la cessation des hostilités à Aru. Nous sommes à 260 km au nord de Bunia. C'est à l'occasion de la clôture du dialogue de paix de 5 jours entre les groupes armés locaux élargis aux chefs coutumiers et leaders communautaires. Cependant, 2 autres groupes armés, Autodéfense Zaïre et MAPI, qui participaient à ces assises, n'ont pas apposé leur signature sur ce document. C'est en signe de protestation contre le massacre tôt hier matin de 11 personnes, dont 8 enfants, aussi des personnes déplacées de Djangui dans le territoire de Djougou. Martial Kizabiamungu est sur place à Aru. Il nous révèle le contenu de ce protocole d'accord.
Ce protocole d'accord prévoit, entre autres, la cessation des hostilités et toute violence contre les populations civiles, les forces de défense et de sécurité. Ces groupes armés se sont également engagés à ne pas circuler avec les armes et de matérialiser leur adhésion au programme de désarmement, y compris les enfants qui opèrent encore dans leurs rangs, de garantir la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province en vue de favoriser les retours des personnes déplacées et les rapatriements volontaires des réfugiés dans leurs milieux respectifs. Les groupes armés Codeco, FRPI, FPIC et Chini Yatuna ont résolu également de ne plus commettre des exactions contre les femmes et les enfants comme moyen de vengeance. Ils ont également accepté d'être disponibles à participer à la défense de la patrie conformément aux tests légaux à la matière. Dans sa déclaration dans la salle, la communauté interregroupant les peuples Ema a annoncé la suspension de leur participation à ce dialogue en attendant d'organiser les des 11 déplacés du site de Djangui tués vendredi matin par la Codeco. Pour la même raison, les groupes armés MAPI et Autodéfense n'ont pas apposé leur signature sur ce protocole d'accord d'épée en Ituri. Depuis Aru, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Tout Toujours dans le cadre du dialogue de paix à Rou 2 en Ituri, les leaders des associations féminines présentes à ces assises ont exigé des mesures concrètes pour leur protection et celle des enfants qui sont les principales victimes des exactions des groupes armés. Le jeudi, elles ont plaidé notamment sur la participation d'au moins 30% des femmes dans la mise en œuvre et le suivi des accords issus de ces assises. Isaac Remoyope revient sur la journée des jeudis à ces assises.
Parmi ces femmes qui participent à ces assises, il y a notamment les représentantes des organisations féminines, des membres de la société civile, des médias et du gouvernement provincial. Les débats ont tourné jeudi autour des voies de sortie de la crise qui perdure depuis 2017 à Ituri, dont les femmes et les enfants sont les principales victimes, ont-elles déclaré. Elles recommandent d'abord la cessation immédiate des hostilités par les groupes armés, mais aussi le respect des droits de l'homme et la fin des violences faites aux femmes en garantissant leur sécurité. Nous sommes souvent la cible d'attaques dans les marchés. Les champs ont-elles déclaré. D'autres sont utilisés comme armes de vengeance dans les conflits. Elle plaide pour la démobilisation des femmes qui sont enrôlées dans ces milices. Des partenaires du gouvernement, notamment la MONUSCO, ces leaders féminins sollicitent leur accompagnement, entre autres à travers la création des cliniques dans les territoires pour la prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles, mais aussi le renforcement de leurs capacités pour un leadership efficace en vue de leur participation dans les instances de prise de décision. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, statut de la jeunesse et des femmes en RDC, valeur et signification pour les sociétés africaines et japonaises, c'est le thème que la première ministre Judith Suminwa a abordé hier vendredi à l'université d'Osaka au Japon, devant les étudiants et le personnel académique de cette alma mater. La chef du gouvernement congolais a expliqué tous les efforts que son gouvernement fournit sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi pour faciliter l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. Pour aller plus loin dans les relations RDC-Japon, elle en appelle à la mise en place d'un programme d'échange entre les deux pays centré sur la jeunesse, le leadership féminin et la résilience communautaire. On écoute Judith Suminwa répondre à la question d'un étudiant japonais sur les efforts fournis par le gouvernement congolais dans le domaine de l'environnement. Ses propos sont recueillis par Alain Rumushinj, notre envoyé spécial à Osaka.
Ce qui est important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle notamment de la République démocratique du Congo comme une solution, vous savez, avec ce changement climatique aujourd'hui. Le fait que nous avons des forêts, des tourbières aujourd'hui en République démocratique du Congo nous permet de protéger l'environnement au niveau mondial. Et donc, il est important aujourd'hui de voir comment nous, en tant qu'êtres humains, nous préservons la nature en évitant, par exemple, de couper le bois dans nos forêts, ce qui permettrait de protéger l'environnement. Mais pour ça, il y a deux choses. L'une, il faut éduquer nos populations pour qu'elles puissent trouver d'autres alternatives à la coupe du bois. Mais il faut aussi qu'au niveau mondial, au niveau global, on puisse voir comment justement attribuer dignement et correctement financièrement les populations qui vont s'abstenir de pouvoir gagner des revenus à travers notamment la coupe du bois. Et plutôt préserver l'environnement en préservant nos forêts.
Merci de nous recevoir à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Ici, le bourgmestre de la commune Makiso prend des mesures concrètes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans son entité. Simon Lowawa a remis du matériel de communication au chef des différents quartiers de son ressort, ainsi qu'au chef de bloc. La cérémonie de remise s'est déroulée au bloc Lengema, au quartier Plateau Médical. Jacques Moukonkole, reportage.
Cette cérémonie s'est déroulée dans la cour de la Chaumière, un établissement du groupe scolaire Papa Agouzou. Ici, des appareils Motorola ont été remis au chef de quartier et d'avenue, Dr Simon Lowawa, bourgmestre de la Makiso.
Nous sommes venus pour remettre aussi symboliquement à nos collaborateurs, les chefs de quartier et les chefs des rues, leur remettre des appareils de communication pour faciliter justement la fluidité de l'information afin de permettre aux autorités ainsi qu'aux services de sécurité d'intervenir rapidement.
Le quartier Plateau Médical est l'un des plus insécurisés de la commune mère de la ville de Kisangani. Témoignage des jeunes Tonton Bangou et Trésor Kamouleté.
Nous avons une sécurité ici très grave, par exemple des vols armés.
Alors nous nous sentons vraiment dans l'insécurité. Il y a des fois vous pouvez écouter des gens qui crient au secours, au secours.
Les bénéficiaires apprécient ce geste qui va contribuer à dissuader les inciviques, auteurs de l'insécurité dans leur milieu, selon Thomas Foloyenga du Plateau Médical. Par ailleurs, les numéros verts de la la police ont été également remis à la population pour usage en cas de besoin. En outre, le bourgmestre dit pouvoir distribuer aussi des lots de sifflets à ses collaborateurs pour toutes les parcelles de son entité. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, annonce l'accord pour un cessez-le-feu d'une semaine dans la ville d'El-Fasher, capitale du Darfour du Nord. Cette décision a été prise après un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a insisté sur la nécessité de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette zone récemment gravement touchée. Le début de cette trêve n'a pas encore été précisé. Les forces de soutien rapide impliquées depuis mai dans des combats violents contre l'armée n'ont pas encore réagi officiellement à cette annonce. Rappelons que depuis le 10 mai dernier, des affrontements intensifs se déroulent à El-Fasher, un point stratégique pour l'aide humanitaire dans tout le Darfour, ce malgré la pression internationale pour calmer la situation. Les combats ont déjà causé la mort des dizaines de milliers de personnes et déplacé des millions.
L'invité.
Renforcer les capacités professionnelles pour une réponse efficace à la corruption en RDC, c'est le thème d'un atelier tenu le vendredi à Kinshasa. Objectif, produire un document pour guider les équipes et autres parties prenantes concernées par la lutte contre la corruption. Pour en parler, nous recevons Nick Elebe, représentant pays de l'organisation IDLO RDC. Il s'entretient avec Étienne Lissoumbou.
Elebe, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, IDLO, dont vous êtes les représentants ici à Kinshasa, ensemble avec d'autres organisations, entre autres APLC, vous avez organisé un déjeuner des concertations parlementaires pour parler de la lutte contre la corruption. Quels sont les défis qu'il faut relever face à ces problèmes de lutte contre la corruption?
Ils sont divers et variés. Il y a les questions, bien entendu, de volonté politique, n'est-ce pas, qu'il faut susciter, qu'il faut renforcer, qu'il faut évaluer. Il y a la question, bien entendu, légale et politique, n'est-ce pas. Il faut une législation adaptée à la lutte contre la corruption aujourd'hui. Il faut la mettre à jour afin d'être en mesure de répondre aux problématiques réelles et actuelles. La corruption, on en parle depuis des années, mais c'est un phénomène qui évolue. Ce n'est pas une cible qui serait immobile, c'est une cible mobile, c'est une cible qui change. Et donc, la manière dont elle s'exprime change également. Et donc, il faut que la législation s'adapte à cette réalité. Il y a également, au niveau des défis, un défi financier, bien entendu, parce qu'il faut soutenir la lutte contre la corruption à travers des ressources adaptées. Il y a un défi qui est un défi également technique, n'est-ce pas? Parce que il faut se rassurer que les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption aient la bonne connaissance, la bonne information et qu'ils soient également, qu'ils bénéficient également de mise à jour dans leur formation afin d'être en mesure de répondre aux problématiques de la corruption actuelle. Plusieurs acteurs publics travaillent sur la lutte contre la corruption, mais il est nécessaire de renforcer la coordination afin que ces acteurs ne travaillent plus en vase clos, mais qu'ils soient en mesure d'échanger des informations, d'avoir des plateformes pour discuter et de travailler en synergie pour plus d'efficacité.
Que faire pour lutter contre la corruption actuellement?
La lutte contre la corruption passe par, d'une part, la prévention. Il faut être en mesure de prévenir. Ça signifie donc travailler sur différents aspects qui commencent à partir de la famille, donc l'éducation, qui touche à l'école, qui touche également à une législation qui soit préventive, à des programmes de sensibilisation et d'éducation civique. Donc il y a un aspect sensibilisation. Il y a un deuxième aspect essentiel qui d'ailleurs est relevé par la stratégie de lutte contre la corruption, c'est la question de l'identification, être en mesure effectivement d'identifier des cas de corruption. Donc il faut que ceux qui travaillent dans la lutte contre la corruption soient dotés des outils techniques afin d'arriver à identifier les cas de corruption. Et la troisième chose, évidemment, c'est la poursuite, c'est la répression, c'est être en mesure de lutter contre l'impunité des crimes économiques et financiers, d'être dotés effectivement de juridictions qui ont les compétences, qui ont les moyens, qui ont l'autonomie, l'indépendance nécessaire pour être capable de lutter efficacement et de poursuivre les auteurs, les présumés auteurs des crimes de corruption. Voilà.
Quelles recommandations pouvez-vous faire à la population et aux autorités?
Dire généralement qu'il est temps de réaliser que la corruption est un grand problème. qu'il ne s'agit pas simplement d'une idée en l'air, mais qu'il s'agit d'un problème dont les conséquences sont vécues au quotidien, à tous les niveaux. Les infrastructures sociales de base sont minées par des cas de corruption. La santé, effectivement, est minée. L'éducation est minée par des cas de corruption. Le financement public, le financement des infrastructures se retrouve souvent handicapé par des cas de corruption. Et donc, nous sommes tous, toute la société congolaise est victime de la corruption. Et donc, considérant que c'est un vrai problème qui affecte toute la société, il est indispensable que toute la société se lève et que toute la société agisse efficacement contre la corruption dans ce pays. Ça ne doit pas être seulement une sorte de combat d'arrière-garde de quelques individus, mais ça doit être une question qui intéresse l'ensemble de la société, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et tout autre acteur engagé.
Nickel et la Radio Capé vous dit merci.
Je vous remercie également.
Notre invité répondait aux questions de Étienne Lissoumbou. Ou par ici, prend fin ce journal coordonné par Jude Mystère Bilanda, Alain Goy à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.